Alors, comme j'ai vu le film pour la première fois hier soir en le présentant, bonjour monsieur, en le présentant à l'Utopia avec des professeurs de Sciences Po Bordeaux, où je suis moi-même professeur émérite, et j'ai enseigné plusieurs choses, l'histoire américaine, la civilisation américaine, le cinéma américain. Et aussi le cinéma américain en art du spectacle à Bordeaux 3 pendant des années. Donc, je suis contente de continuer en recherche et faire des conférences ici me redonne un peu la joie de l'enseignement et aussi de parler avec des gens sur un sujet qui m'est cher, parce que j'espère que vous allez intervenir à volonté. Et si vous avez une question, si vous avez une opinion, que vous nous le ferez savoir et qu'à la fin, nous pourrons peut-être un peu reprendre les débats qui ont suivi le film hier soir, L'Utopia. C'était un film très long, mais les gens sont restés à presque minuit pour parler du film. Et il y a plein de choses à dire. Alors, j'ai choisi un sujet, comme je n'avais pas vu le film lui-même, l'esclavage au cinéma. Excusez-moi, je viens d'écrire très rapidement cette diapositive. Parce que pour la publicité du film, deux des producteurs, Steve McQueen lui-même, le metteur en scène, et Brad Pitt, qui est un des acteurs, ont souligné le fait que voilà, c'est vraiment la première fois qu'on a abordé le thème de l'esclavage comme il faut, comme il se doit, de manière à créer et respecter une sorte de devoir de la mémoire que les Afro-Américains devraient avoir, à l'instar des peuples victimes de la Troisième Reich en Europe. Et ils prétendent qu'il y a eu, mais McQueen a dit texto, la guerre en Europe n'a duré que 5 ans, il y a des centaines de films, et l'esclavage a duré 200 ans, il y a très très peu, film, peu de films, c'est injuste. Alors déjà, ça m'est apparu comme un peu exagéré, dans la mesure où il existe une première version de ce film, qui n'est peut-être pas à la même hauteur, parce que c'était un film produit pour la chaîne américaine PBS en 1984, dirigé par Gordon Parks, un réalisateur afro-américain très respecté. Et l'histoire est racontée d'une manière quand même assez violente. Et alors, dans quelques minutes, j'aimerais vous passer des séquences. Tout le monde a vu le film 12 ans d'esclavage déjà. Passer des séquences, les équivalents de certaines séquences clés du film de McQueen dans la version Gordon Parks. Certes, beaucoup moins luxueux, avec peu de moyens, mais quand même tout à fait en respectant l'histoire de Solomon Northrop. Alors, qui est Steve McQueen? Donc, il est commandeur de l'Empire britannique, il a 43 ans. C'est un diplômé d'une grande école d'art à Londres qui s'appelle Goldsmiths College et de la Tisch School à New York, à la privée et très huppée New York University, qu'il a détesté. Et il est plasticien, artiste. Il est multiprimé pour à peu près tout ce qu'il a fait. Voici un exemple de ses créations. C'est un mémorial pour les soldats britanniques tués en Irak qu'il a commémoré sur des plaquettes de timbre-poste. Et chaque soldat a eu sa propre plaquette avec sa tête à la place de la reine. Donc, je suis sûre que vous pouvez analyser la métaphore. C'est-à-dire, il donne une place dans le patrimoine, une place capitale dans le patrimoine éthique de son pays à ses soldats tombés Mentalement, ils ne remplacent pas la reine, mais ils viennent s'ajouter à l'image de la reine, un peu comme une fresque qu'on peut voir dans l'aéroport Gatwick de Londres, où vous avez un portrait de la reine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand vous regardez, il est entièrement composé par des petites photos d'individus britanniques. Okay? Comme pour dire qu'elle n'est pas unique, elle n'est pas seule, mais elle représente la nation dans sa multiplicité. Alors, il a commencé à faire des films dans les années 90 et il a fait un premier film muet sur une danseuse, sur une corde raide. Et il a fait un film sonore, son premier film sonore, s'appelait Drum Roll, et son de tambour. Et voilà ce qu'il a fait. Il a pris un baril d'huile vide et il a monté 3 caméras, une devant et une à chaque bout. Et il l'a mis à rouler dans les rues de New York, de façon à faire beaucoup de bruit et de photographier les choses de manière chaotique. Et voilà, il s'était exposé un endroit clos sur 3 murs différents, un pour chaque caméra. Et donc, il y a sur YouTube un clip, une petite vidéo sur une exposition rétrospective de l'œuvre de Steve McQueen que vous pouvez voir. Il avait lieu l'année dernière à Bâle. Il est affiché, je crois, sur le site de Tate Gallery. Et donc, si vous vous intéressez plus à ses premières œuvres, ça vaut la peine de le consulter. Puis, l'un de ses premiers films qui est souvent pris comme un présage de sa trilogie, donc la trilogie que vient compléter 12 ans d'esclavage, s'appelle L'Ours, The Bear, de 1998. Et voilà McQueen lui-même, qui est acteur. Les deux hommes sont nus et c'est une lutte. On ne sait pas si c'est vraiment une lutte à tendance érotique ou si c'est vraiment de l'agression. Ils sont filmés sous toutes les coutures, si on peut dire qu'on a des coutures quand on est nu. Et voilà, donc ça c'est un film qui concerne le corps masculin nu. Et on va voir que dans ces 3 films principaux, tous primés et adorés, y compris 12 ans d'esclavage, ce thème du corps potentiellement souffrant et martyrisé va continuer. Donc, ça c'est L'Ours. Et voilà ces 2 films précédents. Hunger, de 2008, que vous avez certainement vu, et Shame, de 2011. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Encore le thème du corps masculin, dans ce cas-là, le très beau corps de Michael Fassbender, qui joue dans le premier film, Bobby Sands, le révolutionnaire de l'IRA en 1981, qui participait à la révolte de prisonniers dans la prison de Long Cache. Et quelle était leur révolte? Il y avait 2 aspects. Il y avait un premier aspect qui était the dirty strike, la grève sale, mais très très sale. Et si vous avez vu le film, vous avez vu les murs couverts de fresques faites de matière fécale. Vous avez vu les couloirs dégoulinants d'urine, parce que leur protestation prenait la forme du refus de se laver et le refus de porter le costume de criminel de droit commun, parce qu'ils voulaient que Margaret Thatcher les étiquette des prisonniers politiques. Donc c'était la première partie de leur révolte. Venait après la grève de la faim. Et dans ce film, donc, c'est très connu, l'acteur a perdu 16 kilos pour jouer Bobby Sands à la fin de sa grève de faim, complètement émacié. Alors, dans Shame, on a aussi un homme qui souffre. Et vous pouvez regarder, là, je vais vous montrer un petit extrait de Hunger, où il y a certainement un aspect christique à la présentation du corps nu du prisonnier politique. Mais ici, il y a un jeu sur l'affiche de Shame d'un drapé classique, romain ou biblique, avec donc ce thème de l'accro du sexe qui n'arrête pas de se masturber. Et sa sœur qui a également des problèmes sexuels. Quel est the shame? What is the shame? Le mot en français, c'est la honte. Ce n'est pas leur honte en tant que légèrement, légèrement, quel est le mot, peut-être pervers, je n'aime pas utiliser un mot comme ça, mais alternatif dans leur sexualité. Et c'est au fait la honte de l'Irlande, parce qu'on comprend qu'ils ont peut-être subi des abus sexuels ou souffert des attitudes rétrogrades sur la sexualité en Irlande. Donc deux films politiques qui concernent l'Irlande. Et avec 12 ans d'esclavage, il y a un changement radical parce qu'il traite de l'Amérique. Mais comme vous avez vu, c'est un Afro-Britannique. Et il, avec Brad Pitt, il décide de s'adresser à un problème américain qu'il ressent profondément. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été absolument choquée. Quand on a vu le film entier et quand on a vu les autres films, on reconnaît que c'est une thématique maîtrisée quand même. Ce n'est pas gratuit. C'est une brique pour construire quelque chose. Alors, dans Shame, c'est un peu différent, mais c'est peut-être ce film-là où nous avons des Blancs souffrants, qui est plus analogue que Shame à 12 ans d'esclavage. Donc, je voudrais maintenant passer à l'autre version dont je vous ai parlé. Donc, qui existe en DVD, que vous voyez devant vous, une adaptation de 1984 qui s'appelle Solomon Northrop's Odyssey. Et c'est donc la même histoire, c'est adapté du même livre, 12 ans d'esclavage de Solomon Northrop, qu'il a écrit avec un co-auteur et qui est apparu donc une année après La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe. Et les deux livres ensemble, comme les 199 autres récits d'esclavage qui ont été écrits par des anciens esclaves, ont été donc des appuis pour les abolitionnistes. Et comme vous vous rappelez, Lincoln est réputé avoir dit à Madame Stowe en la rencontrant, « Ah ah, c'est vous la petite dame qui a allumé l'étincelle qui a donné la guerre civile. » Donc la case de l'oncle Tom a été une influence considérable sur la croissance du sentiment abolitionniste tout à travers le pays et en Europe. C'était le deuxième best-seller après la Bible tout au long du 19e siècle. Et ce livre est associé par sa proximité dans le temps au livre de Madame Stowe. Donc c'est produit pour la télévision. C'est dans les années 80, et je vais parler tout à l'heure de la révolution au cinéma des années 70, où il y a effectivement des films pas toujours de très bon aloi sur l'esclavage, montrant beaucoup de violence parce qu'il y avait une libération des contraintes du Hays Code qui était en vigueur entre 1930 et 1960 et qui a empêché beaucoup de différentes évolutions dans le cinéma américain. Donc, on va voir quelques extraits du film de Gordon Parks, un metteur en scène, et c'est très intéressant parce que dans certains des articles que j'ai lus, on a signalé le fait qu'un grand metteur en scène afro-américain comme Spike Lee n'a jamais pensé à faire un film sur l'esclavage. Et dans, il y avait une catégorie de films qui s'appelait « race movies », qui, entre à peu près 1930 et 1970, où il y avait la « blaxploitation », étaient des films fabriqués quelquefois dans les grands studios, mais en général dans des petits studios, par les Noirs, pour les Noirs. Il y avait la « race music », et Elvis Presley, c'est celui qui a fait une race music, c'est-à-dire une musique noire pour les Blancs, et a commencé à brasser les différents éléments de la culture musicale américaine. Et de la même manière, c'est dans les années 70 que les grands studios ont commencé à voir qu'il y avait un grand public afro-américain et que les Blancs aussi étaient intéressés par des films les concernant. Et donc, les choses ont commencé à changer à ce moment-là. 84, donc, c'est à la télévision une série d'adaptations de grands livres américains. Et il est intéressant, c'est, certains chiffres que j'ai lus sont bon, 12 millions d'hommes envoyés par bateau depuis l'Afrique. 10 millions sont arrivés à l'autre côté, dans les Amériques. Il n'y avait que à peu près 400 000 qui étaient destinés à l'Amérique du Nord. 6 millions sont allés au Brésil et le reste dans les colonies françaises. Et c'est très intéressant parce qu'au moment de la guerre de sécession, donc, il y avait 4 millions et demi d'esclaves en Amérique. Et c'était bien sûr une propriété extrêmement précieuse pour les planteurs. Et donc, ils les soignaient. Ceux qui n'étaient pas des sadiques ou des pervers, etc., parce qu'ils avaient besoin d'eux et parce que l'importation était interdite en 1808. Et donc, ils étaient beaucoup plus nombreux 200 ans plus tard que le nombre qui ont été envoyés d'Afrique. Alors qu'il paraît qu'à la Jamaïque, par exemple, ils étaient considérés comme des consommables et ils préféraient travailler jusqu'à la corde, les faire travailler jusqu'à l'usure totale et puis en commander d'autres, que de préserver les vies des esclaves qu'ils possédaient déjà. Et je crois que vous avez raison parce que dans les conversations hier soir, à un moment donné, j'étais absolument, je trouvais indispensable de dire que je ne pensais pas que les Européens étaient foncièrement des hommes meilleurs que les Américains, parce que la question a été posée, comment un pays fondé sur l'égalité, la liberté, etc., pouvait commettre de tels crimes. Mais peut-être le colonialisme a des choses en commun avec l'esclavagisme américain, je ne sais pas, fondé sur une hiérarchie de souches. Okay, je pense qu'on va peut-être se quitter et se dire au revoir peut-être. Dans 2 semaines, il y aura une autre ciné-conférence, Utopia Mola, c'est-à-dire fondée sur une présentation avec des professeurs de Sciences Po du Loup de Wall Street, un film absolument merveilleux, et une conférence ici sur la bourse dans le cinéma américain, entité très peu vue. Et voilà, donc peut-être qu'on se reverra, je l'espère beaucoup, et merci d'être venu. Au revoir.